des millions d'Iraniens dans la rue, l'échec du scénario de déstabilisation, la Syrie déterminée à faire face à la normalisation avec Israël et le renforcement de relations entre l'Afrique du Sud et la Syrie, c'étaient les principaux titres. En voici le journal. Des foules immenses de personnes sont descendues dimanche 25 septembre dans les rues de la capitale iranienne Téhéran pour dénoncer les actes de vandalisme et de profanation des saintetés islamiques par des émeutiers au cours de la semaine dernière à la suite de la mort d'une jeune iranienne après avoir été emmenée dans un poste police. Les manifestants portaient des pancartes et scandaient des slogans pour condamner fermement les actes pervers commis par une poignée de mercenaires au service d'ennemis étrangers qui ont mis le feu au Saint-Coran, aux mosquées et aux drapeaux nationaux et ont enlevé de force les foulards des femmes dans les rues. Les manifestants à Téhéran portaient des drapeaux nationaux et des pancartes, scandant des slogans contre les émeutiers soutenus par l'étranger, les États-Unis et Israël, ainsi que le groupe terroriste des Monaferines, MKO. Ils ont également annoncé leur soutien indéfectible aux forces de police et les mesures qu'ils ont prises pour rétablir le calme dans tout le pays après des jours de violentes émeutes. Ils ont offert des fleurs aux policiers le long du chemin de la manifestation. Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Bahodiri Jahromi, faisait partie des responsables présents au rassemblement à Téhéran. Les manifestants ont également organisé un cortège funèbre pour un membre de la force Basij qui a été tué en martyr par des émeutiers à Téhéran alors qu'il tentait de rétablir la sécurité dans la capitale. Les manifestants ont finalement publié une déclaration appelant tous les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires pour identifier et punir les émeutiers qui ont insulté le caractère sacré des personnes et endommagé les biens publics. Ils ont également demandé la punition de tous ceux qui ont diffusé de fausses informations et rumeurs sur diverses plateformes de médias sociaux dans le but d'alimenter le feu des émeutes. L'attaque du dimanche matin 25 septembre des forces armées sionistes contre des zones de Cisjordanie a conduit à des affrontements avec des combattants palestiniens. 4 Palestiniens ont été arrêtés. À Naplouse, les affrontements se poursuivent. Les médias palestiniens ont rapporté qu'un jeune Palestinien a été tué en martyr dans le pilonnage de sa voiture à Naplouse. Les autorités du régime sioniste ont décrété l'état d'alerte dans les territoires occupés jusque 18 décembre. Les forces d'occupation de Rots empêchent les Palestiniens d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa depuis ce dimanche matin. Un dispositif de sécurité draconien a été déployé autour de la mosquée Al-Aqsa. Une forte concentration des forces sionistes se trouve à l'entrée Bab al-Rahma. Par ailleurs, au moins 250 colons sionistes, épaulés par les militaires, ont fait irruption dans la mosquée Al-Aqsa et ont profané le lieu saint en faisant des gestes religieux et en chantant. Selon une autre dépêche en provenance des territoires occupés, lors de l'opération antisioniste d'un Palestinien dans la ville de Rabat Gilad, près de Ramallah, 2 policiers israéliens ont été blessés. Dimanche après-midi, ce chauffeur palestinien a foncé en voiture vers une voiture de police. Par la suite, il a été tué en martyr par les forces d'occupation. Certaines sources médiatiques en Palestine occupée ont également fait état de l'explosion d'une voiture dans la ville d'Acre. Un homme de 30 ans a été blessé. Les médias du régime sioniste ont fait par ailleurs état d'un incendie au marché de Carmel à Tel Aviv. De nombreux dégâts ont été causés. La conseillère spéciale du président syrien, Hussein Shaaban, a affirmé que le peuple syrien considère la Palestine comme sa principale cause et que les pratiques menées par l'occupation israélienne visent à abolir complètement la présence arabe. Recevant une délégation du Front populaire de libération de la Palestine, Mme Shaaban a souligné que la stratégie de l'Occident et de l'ennemi israélien vise à répandre la normalisation au niveau populaire. Elle a fait noter que l'occupation israélienne est une étape pour dominer la richesse de la nation arabe, faisant état de l'importance de prendre des positions claires et de soutien pour le peuple palestinien afin de l'aider à faire face au terrorisme sioniste. La responsable syrienne a clairement indiqué que le ciblage de la Syrie et ses institutions en 2011 visait principalement à mettre fin au rôle national arabe et à sa position de soutien pour la cause palestinienne. Ce à quoi les pays occidentaux et l'entité sioniste avaient échoué dans la planification, le financement et la gestion de la guerre terroriste contre la Syrie. La conseillère spéciale du président syrien a précisé que la fermeté de la Syrie a joué un rôle majeur dans les engagements mondiaux et majeurs, soulignant que la Syrie est toujours prête à soutenir la lutte du peuple palestinien à tous les niveaux. Pour sa part, le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine a affirmé que la Syrie a joué un grand rôle historique dans le soutien au peuple palestinien dans tous les domaines, soulignant que faire face à la normalisation est une responsabilité arabe commune. Deux jeunes hommes sont tombés en martyr à la suite de l'explosion d'un engin explosif abandonné par des réseaux terroristes à proximité du village d'Al-Rahjan dans la banlieue est de Hama. Une source du commandement de la police du gouvernorat a fait savoir au correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un engin explosif abandonné par les terroristes avait explosé sous une moto transportant deux jeunes hommes à proximité du village d'Al-Rahjan, au nord de la ville de Salamiyya, dans la banlieue de Hama. Le gouvernement syrien a finalement rompu son silence sur l'appel à une réconciliation avec Ankara, annonçant qu'il n'aurait aucun plan de normalisation des relations avec la Turquie. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mirdad, a démenti dimanche l'existence de toute négociation avec la Turquie. Des signes d'un rapprochement turco-syrien sont apparus récemment, bien que son ampleur ne soit pas encore connue suite aux déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a confirmé l'existence d'une coopération en matière de renseignement avec le gouvernement syrien. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, du moins au niveau des ministres des Affaires étrangères, a déclaré M. Mirdad dans un communiqué. Déclarant que l'engagement à mettre en œuvre les dispositions des accords d'Astana est le seul cadre viable pour résoudre la crise syrienne, M. Mirdad a décrit le non-engagement de la Turquie dans cette affaire comme un obstacle au règlement des affaires. Ankara espère que Damas serait encouragé à établir des relations économiques avec la Turquie afin que les deux parties concluent des transactions directes basées sur des intérêts économiques. Le gouverneur de Damas, Mohammad Talir Khishati, a examiné avec l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, Paris-Philippe Kilder, les moyens d'améliorer et de développer les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment les services, l'économie et l'investissement. M. Khishati a fait état des relations historiques dans les deux pays et de l'importance de démontrer la réalité de la situation en Syrie à l'opinion publique sud-africaine, soulignant la volonté du gouvernorat de coopérer et de fournir toutes les facilités aux entreprises sud-africaines souhaitant participer dans la reconstruction et l'investissement. Le responsable syrien a apprécié les positions pro-syriennes de l'Afrique du Sud pendant les années de la guerre terroriste et ses efforts pour soutenir la position de la Syrie dans les forums internationaux. À son tour, le responsable sud-africain a affirmé la volonté de son pays de participer à la phase de reconstruction et de développement urbain à Damas et d'activités de faire progresser la coopération en matière d'investissement. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël sous le siège naval. Les nouvelles dimensions de la puissance militaire de l'axe de résistance et la dernière équation du Hezbollah libanais ont amené le régime sioniste à prendre plus au sérieux les défis et les dangers maritimes auxquels il est confronté. Le Liban et l'entité sioniste sont en dispute sur une zone marine riche en pétrole et en gaz en Méditerranée d'une superficie de 860 km². Les États-Unis supervisent des négociations indirectes entre eux pour régler le différend et délimiter la frontière. Selon le président libanais Michel Aoun, les négociations pour délimiter la frontière maritime avec Israël sont dans leur phase finale, alors que Tel Aviv menace d'exploiter la plateforme Karish avec ou sans accord. Ceci dit, les cartes d'Israël sont brouillées et son armée de l'air a perdu sa supériorité. Elle a essuyé de nombreux échecs face à l'axe de résistance. Sa force navale reste sa seule chance pour faire face aux menaces de la résistance. Par conséquent, les défis maritimes d'Israël sont aussi importants que les crises internes. En avril 2021, un navire appartenant à une société israélienne a été la cible d'une attaque près des côtes des Émirats arabes unis au large de l'Iran, au moment où Téhéran et Tel Aviv semblaient engagés dans une nouvelle escalade sur mer. Deux mois plus tard, le Mercer Street, un navire opéré par la société Zodiac Maritime, détenu par un milliardaire israélien, a été attaqué en mer d'Oman. De l'avis des chercheurs, la pensée stratégique israélienne est confrontée à la nouvelle donne au Moyen-Orient. Le pouvoir israélien est donc passé d'une situation où le Hezbollah, le Hamas et l'Iran représentaient les seules menaces potentielles à une nouvelle donne où des menaces peuvent surgir de partout. Pour l'instant, ce sont les menaces émanant de son environnement immédiat, territoire palestinien, plateau du Golan, péninsule du Sinaï, voisins arabes, qui occupent l'attention des stratèges israéliens. L'institution militaire israélienne se doit de penser la guerre tous azimuts et de se préparer à toute forme d'affrontement. Le Centre de recherche sur la stratégie maritime de l'Université de Haïfa a fait paraître un rapport intitulé « Rapport stratégique maritime » dans lequel il s'est penché sur le blocus naval imposé contre Israël par l'axe de résistance. Le blocus plongera Israël dans une crise qu'il ne peut pas gérer. Et si un conflit régional éclate, la guerre en mer aura des conséquences désastreuses pour Israël. Parce qu'Israël est entouré des menaces en provenance de cinq directions, à savoir l'Iran, la Syrie, le Liban, le Yémen et la bande de Gaza. Quant à savoir si le régime sioniste subit un blocus maritime de la part de l'axe de résistance et quelles seront ses mesures de sauvetage, c'est en observant de près la feuille de route et les lignes maritimes utilisées par les navires commerciaux israéliens que nous découvrons que toutes ces lignes sont dans la ligne de feu des ennemis du régime. L'axe de résistance, avec un contrôle total sur le golfe Persique et la mer d'Oman, peut facilement surveiller la circulation des navires israéliens. Par ailleurs, ses missiles et ses drones lui donnent la capacité de viser les positions et l'équipement naval israélien à tout moment. Les pays de la région, membres de l'axe, dont l'Iran, la Syrie et le Liban, sont suffisamment équipés pour perturber le commerce maritime d'Israël ou menacer ses côtes et ses positions navales. En conséquence, le régime sioniste est extrêmement préoccupé par le transport maritime et le déchargement des navires dans le port de Haïfa, considéré comme le plus développé et le plus sécurisé de l'entité, notamment du fait de la présence de la flotte américaine qui y stationne. Avec une gestion de près de 30 millions de tonnes de frais annuels, le port commercial flanqué au sud de la baie est le premier avant Ashdod ou Eilat. Mais les groupes de résistance au Yémen et dans la bande de Gaza peuvent à tout moment entraver ce trafic maritime. Le Yémen a une position maritime stratégique très importante avec 2500 km de frontière surplombant la mer d'Oman et la mer Rouge de l'Ouest. De plus, le détroit de Bab el-Mandeb, qui est le goulot d'étranglement d'entrée et de sortie de la mer Rouge, donne au Yémen une position maritime particulière. Les forces armées affiliées au gouvernement de Sanaa ont réussi à cibler un grand nombre de navires de guerre de la coalition saoudo-émiratie depuis les 8 années de guerre destructrice au Yémen. Elles sont donc capables de cibler des navires israéliens si nécessaire. En ce qui concerne la bande de Gaza, les groupes de résistance palestiniens sont aussi en mesure de paralyser n'importe quel point des ports d'Israël. En fin de compte, face à l'axe de la résistance dont la puissance maritime se révèle de jour en jour, le régime sioniste se voit encerclé au sol mais aussi en mer.